Les fleurs nous accompagnent dans toutes les étapes de notre vie sans que nous en ayons vraiment conscience. Nos relations avec ces végétaux sont tout à fait singulières. Une histoire passionnelle qui n'est pas sans conséquence. Notre amour dévorant pour les fleurs a en effet un coût et l'impact environnemental de cette passion méritait qu'on s'y intéresse de plus près. C'est chose faite puisque l'historienne Valérie Chansigaud publie un ouvrage consacré à l'histoire passionnelle que nous entretenons avec les fleurs en choisissant de leur donner la parole. Et c'est également l'idée qu'a eue la chercheuse en physiologie végétale Catherine Laine avec un autre ouvrage Dans la peau d'une plante. Il était donc naturel qu'elle se rencontre pour une discussion fleurie au micro de la Tête au Carré. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue Valérie Chansigaud, vous êtes historienne des sciences et de l'environnement et vous êtes chercheuse associée au laboratoire CNRS Sphère de l'université Paris 7 et donc vous publiez une histoire des fleurs entre nature et culture aux éditions de Lachaud et Nestlé. Et puis Catherine Laine, vous êtes chercheure en physiologie végétale, maître de conférence à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et vous revenez dans la Tête au Carré avec ce livre Dans la peau d'une plante qui a été édité chez Belin. Alors depuis quand l'homme aime-t-il les fleurs? Peut-on parler de nature lorsqu'on évoque les jardins fleuris? Quel est le coût écologique de notre passion pour les fleurs? Et puis bien sûr, comment les protéger? Voici quelques-unes des questions dont nous allons parler dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent déjà en direct sur le site de l'émission, sur franceinter.fr et puis également sur les réseaux avec le mot-clé « l'attaque ». Et puis le quiz de la Tête au Carré, ce sera dans la dernière partie avec Florence Porcel qui me rejoindra pour accueillir deux nouveaux auditeurs. Violaine Ballet est aux commandes de l'émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et la semaine commence avec la chronique d'Axel Villard. Bonjour Axel.
Bonjour.
Une première française dont vous nous parlez aujourd'hui. L'inauguration, ce sera demain, du premier laboratoire français de recherche dédié entièrement aux jeux vidéo et à ses pratiques. Et vous ne pouviez pas passer à côté.
Mais non, c'est sûr, c'est très excitant. Et en même temps, j'ai presque envie de dire, il était temps quand on sait que le même type de lieu existe déjà depuis plusieurs années aux États-Unis, ou même au Canada. Nous voilà maintenant de la partie avec la ville de Metz et l'université de Lorraine qui inaugure demain l'Expressive Game Lab, un laboratoire qui accueillera bien sûr une vingtaine de chercheurs et de doctorants, mais aussi une centaine d'étudiants en master, tous au sein d'un lieu complètement atypique dédié au numérique, oui. Le TCRM Blida. Oui. Alors, pour comprendre ce lieu, je vous propose d'écouter le responsable du laboratoire et initiateur du projet, Sébastien Guenvaux, un ancien game designer, professeur des universités et vulgarisateur sur Internet.
Expressive Game Lab, en fait, c'est un laboratoire qui va être installé hors les murs de l'université, dans un lieu qui est en fait un tiers-lieu de création qui est mis en place par la municipalité messine et qui sera consacré notamment à la création artistique, à des lieux de coworking pour les entreprises, à des associations autour du numérique. En installant cette plateforme d'analyse des contenus et des usages du jeu vidéo, il y a eu aussi l'idée et l'intention d'essayer d'offrir à la fois aux étudiants et aux chercheurs des opportunités de développer des partenariats avec l'ensemble de ces acteurs.
Alors, quels seront les travaux menés dans ce labo, Axel ?
Alors, on y fera beaucoup de choses. Il y aura des travaux d'analyse des contenus et des pratiques autour des jeux vidéo, récents ou anciens. Par exemple, une thèse s'ouvre pour étudier l'évolution des jeux de tir subjectif, qu'on appelle aussi des jeux de shoot, produits après le 11 septembre 2001. Il y aura aussi de la création, de jeux sérieux, des jeux tournés vers la recherche et qui visent à créer des connaissances nouvelles grâce aux joueurs, de la création aussi de jeux ciblés, adaptés à des publics spécifiques comme les enfants ou les personnes âgées, et de l'expérimentation autour notamment du jeu expressif pour explorer des domaines encore vierges en matière de jeux vidéo. Écoutez à ce sujet Sébastien Guenvaux à nouveau.
L'idée, c'est aussi de se dire quelles sont les thématiques que le jeu vidéo peut se permettre d'aborder, de quelle façon il va les aborder, comment on peut traiter le sujet aussi sensible que la misère sociale, que la pédophilie, que ces choses-là, dans le jeu vidéo, en profitant de leur spécificité en tant que média, pas tant pour persuader le joueur de quelque chose, mais plutôt pour l'amener à réfléchir en lui laissant le choix et en lui permettant de réfléchir aux conséquences de ses actes. Ça, c'est une propriété du jeu vidéo qui me semble très intéressante pour analyser certaines thématiques liées à la réalité quotidienne. Mais ça, en retour, ça implique aussi de comprendre ce qui fait du jeu vidéo une forme d'expression à part entière. Au-delà du fait de se dire, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui jouent, c'est d'essayer de comprendre comment ces personnes jouent et de quelle façon, pour quelles raisons et quel sens elles donnent à leur pratique. C'est un domaine complexe qui nécessite d'être considéré dans sa diversité.
Alors, pour les curieux ou les passionnés qui nous écoutent en Lorraine, une rencontre rencontre en public est organisée demain après-midi au campus du Solcy dans le cadre du séminaire international dédié aux jeux expressifs. C'est à cette occasion que l'Expressive Game Lab sera inauguré. Et pour ceux qui s'intéressent à la théorie des jeux vidéo en général, je vous conseille la Web TV de Sébastien Guenvaux, intitulée tout simplement « Théorie des jeux vidéo », accessible gratuitement en ligne.
Voilà, le TCRM Blida, dans un nouveau lieu en France, et on peut le saluer effectivement. Merci beaucoup Axel, toutes les infos sont évidemment sur le site.
En lien.
De la tête au carré. À bientôt. Allez, une brassée de fleurs pour démarrer ensemble cette semaine scientifique avec nos invités. Ce sera juste après Bernard Lavillier et Catherine Ringer, nouvelle version d'Idées Noires.
Il se lève, c'est l'heure, écrase son ego. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteins le lampadaire, éteins le plafonnier. Éteins la cuisine, mais la sécurité.
Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Tu es dans mes bras, que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu? Un jour tu partiras, où es-tu? Quand tu es dans mes bras.
Je fais des mauvais rêves, je suis sur un mauvais calme. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique urgente et désirable. Décapité dans sa décapotable.
Cauchemar, highway, bad trip, fumée noire. Une vente vorace, tu es au fond d'un couloir.
N'en sors pas, cafard, bad trip, idée noire. Avalé par l'espace, au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire.
Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle version réenregistrée donc pour le nouvel album de Bernard Lavillier et Catherine Ringer qui succède à Nicoletta avec ses idées noires à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Et comment vous avez su qu'il fallait arracher les mauvaises herbes?
Elle avait l'air d'étouffer. Je sais même pas ce que c'est.
Un lys, celui qu'on appelle l'empereur des Indes.
L'empereur des Indes?
Et ceux-là sont d'une autre variété. On pourrait les planter autour de votre empereur des Indes.
Elles seront ces demoiselles de compagnie?
Comme dans la chanson. Marie, Marie, tout la contrarie, son jardin des fleuris.
Sous leurs ombrelles, les hirondelles sont comme ces demoiselles de compagnie.
Voilà, extrait du film Jardin secret, sorti en 1993. On évoquera tout à l'heure d'ailleurs les mauvaises herbes, on en entendait parler dans cet extrait. Les fleurs omniprésentes dans nos vies, avec cette relation passionnelle que nous entretenons avec elles. Et cet après-midi, donc, le dossier de la tête au carré qui leur est consacré. Pour en parler, l'historienne Valérie Chansigaud, avec ce livre Une histoire des fleurs, entre nature et culture, c'est chez Delachaux et Nestlé. Et Catherine Laine, chercheure en physiologie végétale, qui publie Dans la peau d'une plante aux éditions Belin. Deux chercheuses donc avec nous cet après-midi. Toutes vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec les messages courts et le mot-clé l'attaque. Valérie Chansigaud, vous le dites vous-même, il y a déjà une quantité très impressionnante d'ouvrages consacrés aux fleurs. Quelle approche est-ce que vous avez eu envie de développer justement pour en parler? Qu'est-ce qui fait votre originalité alors?
En fait, quand on regarde vraiment cette abondante production consacrée aux fleurs, on se rend compte que certes, on parle des fleurs, mais on ne parle pas, je dirais, de façon innocente de ces fleurs. Tous ces ouvrages, les ouvrages qui retracent l'histoire de la botanique, l'histoire des voyages ayant permis de trouver ces plantes aussi rares que l'on cultive aujourd'hui.
On l'évoquait récemment avec les orchidées, hein, par
exactement.
Exemple.
Hein. Tous ces ouvrages prennent en fait une sorte de point de vue qui est de dresser des lauriers à la gloire de l'homme, de son génie, de son sens de l'aventure et du danger et du profit aussi. Mmh. Et en fait, très très peu de livres, voire pas du tout, à l'exception de celui de Catherine Laine, prend en fait un autre type de regard pour s'intéresser dans cette histoire aux plantes elles-mêmes et à ce qu'elles ont subi par effectivement cet amour, cette passion, cette conquête, puisque c'est comme ça qu'on décrit, du monde végétal.
Oui, Catherine Laine, c'est aussi la posture effectivement que vous avez choisie, puisque oui, dans la peau d'une plante, il y a tout dans le titre.
C'est, hein. Ça, c'est très amusant parce qu'on a exactement la même approche, chacune avec sa discipline. Mais moi, je voyais effectivement les ouvrages de botanique qui ne parlaient que des plantes qu'on mange, ou des plantes pharmaciennes, desquelles on tire des médicaments.
Plantes utiles,
des plantes
fond,
utiles à l'homme. Mmh. Et je me disais, mais finalement, il n'y a pas d'ouvrage accessible au grand public qui retrace, qui explique qu'une plante, c'est un être vivant qui fonctionne. Et donc, ça m'a donné envie d'écrire le mien.
Oui, Valérie Chansigaud, avec cette envie, vous, de vous intéresser justement au prix qu'ont payé les fleurs pour cet amour absolument dévorant qu'on leur porte.
Oui, c'est un amour, encore une fois, c'est ce qui est fascinant lorsqu'on parle de fleurs, c'est qu'en fait, il y a en quelque sorte deux types de fleurs. La fleur à laquelle on pense, qui est une fleur énorme, hypertrophiée, transformée par le génie horticole, par des soins parfois pluricentenaires de sélection patiente, obstinée, et parfois un peu obsessionnel. Mmh. Et à côté, les plantes, comme les mauvaises herbes, qui sont pas ou peu visibles, pas très intéressantes, que l'on remarque parfois pas du tout. Et c'est ce choc entre ces deux types de plantes, celles qui sont valorisées, mais qui ne sont pas naturelles, qui sont transformées, qui ont une valeur en tant que bien culturel, et celles qui sont spontanées et naturelles, qui sont soit invisibles, soit tout à fait haïques lorsqu'il s'agit de mauvaises herbes.
Méprisées, oui.
Ouais, avec ce paradoxe, hein, effectivement, qui fait qu'on peut être en adoration et tout faire pour maîtriser, transformer les fleurs, et puis dans le même temps, ignorer totalement d'autres espèces qui sont pourtant autour de nous.
Et parfois au pied de celles qu'on cultive.
Ouais.
C'est ça qui est étonnant. C'est que ce que j'adore, par exemple, chez certaines plantes, c'est que presque personne ne les voit, comme les orobanches que je cite.
Qu'est-ce que
souvent.
C'est
Les plantes parasites.
C'est des plantes parasites qui se sont en fait débarrassées de la chlorophylle, qui ont des feuilles alors toutes petites qui ressemblent plus à des écailles, parce que pas besoin de feuilles quand on n'a pas de chlorophylle, et pas besoin de chlorophylle quand on est parasite. Et c'est des plantes qui, littéralement, n'attirent pas du tout le regard. Et puis, qui sont pourtant des vraies plantes vivantes, et elles sont absolument fascinantes.
Dans le même registre, moi, je pense aussi à toutes les graminées, hein, toutes les herbes qui fleurissent. Alors, on a domestiqué le blé, mais à côté de ça, il y a tellement d'autres poacées, hein, c'est le nom de la famille, et qui sont de toute beauté, mais avec des fleurs tellement discrètes qu'on ne les regarde pas.
Oui, alors justement, qu'est-ce qu'on appelle la mauvaise herbe? Alors, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure dans cet extrait, parlons-en dès maintenant, parce que c'est très subjectif, au fond, cette notion de mauvaise herbe. Hein.
Ah, il y a même des plantes qui vont passer successivement du statut de plante cultivée aux plantes
Reléguée.
Et puis au statut de plante envahissante.
Oui.
Ou de mauvaises herbes. Le tournesol, par exemple, est un bel exemple aux États-Unis de plante qui va avoir successivement et en fonction des circonstances des statuts.
Plusieurs statuts.
Tout à fait différents. Parce qu'effectivement, comme l'idée de mauvaise herbe est une idée humaine, centrée en fait sur nos activités, nos intérêts, forcément, ça change. C'est pas une valeur biologique, même s'il y a des caractéristiques biologiques qui expliquent qu'une plante peut être une mauvaise herbe. Toutes les plantes ne peuvent pas être des mauvaises herbes selon nos critères. Mais c'est vraiment, d'abord et avant tout, une valeur humaine.
Oui, Catherine Laine. Les coquelicots aussi, hein, je crois, ont un peu ce statut de mauvaise herbe pour certains.
Voilà, la mauvaise herbe, c'est l'herbe qui gêne. Finalement, donc le coquelicot va gêner en diminuant le rendement du champ de blé. Et après, les mauvaises herbes, c'est celles aussi qui poussent dans notre potager, dans nos allées, celles qui vont envahir les talus.
Elles sont aussi remarquables, ces mauvaises herbes. C'est ce que vous dites dans votre livre, parce que ce sont
des fermes particulièrement
résistantes.
Oui, et puis dans leur stratégie de colonisation, elles sont effectivement très efficaces. C'est souvent des plantes qui vont coloniser les milieux ouverts parce qu'elles produisent un très grand nombre de graines, parce qu'elles sont héliophiles, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de soleil, elles préfèrent les milieux très ensoleillés. Et là où une jeune plantule d'arbre ne pourra pas se développer parce qu'il lui faut de l'ombre, eh bien ces mauvaises herbes-là, les chénopodes, les orties, l'oseille, toutes ces mauvaises herbes vont exploser parce qu'elles ont des capacités de colonisation extraordinaires.
Oui. D'ailleurs, vous imaginez la Terre sans la présence de l'homme.
Sans la présence de l'homme.
Ça, c'est très amusant, parce que qu'est-ce qui se passerait alors? On imaginerait quoi alors, exactement?
Il ne se passerait pas grand-chose, c'est-à-dire que l'homme...
C'est le monde végétal qui aurait pris le dessus, de toute façon.
Le monde végétal, le monde animal, le monde bactérien, c'est-à-dire que sans l'homme, le monde se débrouillerait très bien. Et ce qu'on peut imaginer, effectivement, c'est que la végétation laissée à elle-même... normalement, enfin, dans la dynamique de la végétation normale, on aboutit à des forêts.
Oui.
Donc, ce que l'homme défriche, les milieux que l'homme ouvre, ces milieux seraient à nouveau refermés jusqu'au stade de la forêt. Un stade qui n'est pas stable à ce moment-là, c'est un stade dynamique encore, puisqu'une forêt se renouvelle naturellement. Mais on aurait effectivement beaucoup plus de forêts qui couvriraient
Et justement, les plantes à fleurs, est-ce qu'elles seraient dominantes dans ce phénomène?
Alors,
ou pas
dans les forêts, ce sont des plantes à fleurs, du moins pour tout ce qui est arbres feuillus. Pour les arbres résineux, il n'y a pas de fleurs, il y a des cônes. Mais effectivement, les angiospermes, plantes à fleurs, seraient dominantes.
Valérie Chansigaud, donc ce travail que vous menez, hein, d'historienne et de chercheuse, toujours dans le cadre de vos travaux, sur ces liens et sur l'impact précisément de l'homme sur la nature, parce que c'est ça le fond aussi de vos travaux.
Oui, et puis cette relation tellement compliquée que l'on entretient avec la nature, faite d'amour, de répulsion, de reconstruction en fait perpétuelle de cette relation. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à suivre parce qu'on a souvent des idées extrêmement arrêtées sur cette relation, souvent caricaturale, et effectivement explorer ces aspects-là sous différents angles permet effectivement d'éclairer aussi les problèmes environnementaux que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est une lecture que je crois être importante parce que ces mécanismes-là, et les problèmes environnementaux par exemple d'aujourd'hui, sont des problèmes qui ont une dimension historique. Ils ne sont pas nés hier matin, ils ont une profondeur et effectivement, voir les choses de façon dynamique sur le temps, parfois sur le temps long, peut éclairer effectivement sur des aspects tout à fait contemporains.
Alors justement, il y a une des questions formidables parce que c'est le moment où l'homme s'est véritablement intéressé aux fleurs. Est-ce qu'on peut le dater, ça, véritablement, ou pas? Alors là, c'est vraiment l'historienne que je m'adresse. Qu'est-ce qu'on sait de cette relation?
Ce qui est passionnant, c'est que lorsqu'on commence à s'intéresser aux signes laissés par l'homme préhistorique, notamment tout ce qui est l'art des cavernes, on se rend compte qu'il a une passion pour l'animal. Passion aussi, d'ailleurs, pour des formes géométriques, des silhouettes humaines, etc. Mais des plantes...
Il n'y a pas de représentation du tout.
Il n'y a pas de représentation indéniable. Ouais. C'est-à-dire, il y a des formes qui pourraient être des plans, mais qui pourraient être aussi tout à fait autre chose.
Oui, c'est ce que vous montrez, hein, justement, dans une des gravures qui figure dans, dans l'iconographie
on a l'impression
du livre.
Il y a une forme qui pourrait ressembler, effectivement, peut-être une graminée, on ne sait pas, mais ça pourrait être aussi un harpon. Parce que les harpons, enfin, certains harpons ont tout à fait cette forme-là.
Voilà. On va demander aussi à Catherine Lenz ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un harpon ou vous voyez une graminée plutôt?
Moi, je vois plutôt un épi, donc une graminée.
Bon.
Allez, moi, je suis pour la plante.
Interprétation.
Alors, par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les restes de préhistoriques que l'on peut étudier, on trouve des traces de végétaux, bien évidemment, parce que les végétaux servent à beaucoup de choses, à l'alimentation, pour faire des couches, etc. Mais des traces indéniables d'usage de fleurs pour leur valeur ornementale, ça, c'est beaucoup plus difficile à établir. Ouais. En fait, ce n'est pas du tout possible à établir. Et puis, on a aussi le parallèle avec les sociétés qu'on a pu étudier, gérer dans un passé récent. Et toutes les sociétés ne développent pas un intérêt pour les fleurs. Ouais. Certaines le font, d'autres ne le font pas du tout.
Catherine Lenz, c'est toute la difficulté justement pour les fleurs de laisser des traces au fil du temps.
Oui.
C'est la dégradation au fond de l'élément
effectivement,
végétal.
Les plantes se fossilisent moins bien que les os, par exemple, des vertébrés. Et ce qu'on peut retrouver, par contre, ce sont les pollens. Hein, on a des pollens fossilisés dont on peut étudier la forme et la surface. Et donc, on peut identifier les plantes qui poussaient à certains endroits. On peut reconstituer des paléo-environnements, mais on ne remonte pas non plus très très loin.
Ouais. Les Néandertaliens, vous en parlez justement, Valérie Chansigou, il y a 60 000 ans, plaçaient délibérément des fleurs dans les tombes.
Plaçaient des végétaux dans les tombes.
Et ouais.
C'est toujours, encore une fois, c'est difficile, à partir de la trace, d'une trace indéniable de plantes, de savoir pourquoi cette plante est là. Parce qu'elle peut très bien avoir des valeurs, d'un point de vue, je dirais, des odeurs qu'elle dégage, puis des valeurs culturelles qu'on lui attribue aussi, tout simplement. C'est vraiment la fleur comme ornement. Il faut la chercher dans des sociétés déjà beaucoup plus structurées, beaucoup plus développées. Et d'ailleurs, toutes les sociétés qui se hiérarchisent de façon importante vont développer cet intérêt pour les fleurs, parce que les fleurs deviennent en fait une marque ostentative de la richesse des différentes classes sociales, au même titre que d'autres éléments. Et par exemple, les peuples qui ne vont pas avoir de culture des fleurs, je pense en Afrique de l'Ouest, sont connus pour avoir par exemple des pratiques culinaires où les aliments sont peu transformés, sont relativement bruts. Et il y a un rapport, il y a un lien qu'on peut faire entre l'élaboration d'une cuisine sophistiquée et l'utilisation des fleurs, parce que dans les deux cas, ça permet de marquer en fait l'ostentation, la richesse. Plus l'aliment est compliqué, plus il va être cher, et plus on peut dépenser des fleurs juste pour leur beauté, plus ça marque également sa richesse.
En tout cas, vous dites que la première utilisation de fleurs dans un rite funéraire se trouve sur le mont Carmel en Israël, dans les tombes donc datant de 13 700 avant notre ère, a priori.
Oui, on suppose c'est une utilisation de fleurs, ça c'est absolument indéniable, parce qu'on a pu retrouver la plante par rapport aux plantes actuelles.
La tombe de Chalidar, c'est ça ?
Je ne me souviens plus le nom du site précisément. Après, pourquoi, encore une fois, elle est là, ça, c'est beaucoup plus difficile à établir.
Marc nous dit, une mauvaise herbe, c'est une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus. Ah. Citation de Ralph Waldo Emerson, nous dit-il. Hein, on est preneur. Et Jean-Marc nous dit, pourquoi ne pas parler d'herbe folle plutôt que de mauvaise herbe? On emploie le terme, d'ailleurs.
Et Gilles Clément, qui a écrit un très bon ouvrage, les appelle les vagabondes.
Oui, c'est chouette.
J'aime bien aussi.
Jean-Paul nous dit, l'exhibition sexuelle, les fleurs, c'est la profusion sexuelle exubérante, chimique, chromatique qui apparaît un jour dans l'évolution. Valérie Chansigou.
Catherine pourra en parler, parce que c'est vrai que si les fleurs sont visibles, c'est pas pour nous faire plaisir, en fait. Elles sont visibles. D'ailleurs, ce qu'on appelle fleurs, il faudrait s'interroger d'ailleurs aussi sur le vocabulaire. Ça, je pense que Catherine...
Je pense que là, c'est l'occasion justement peut-être de repréciser les choses. Ce qu'on appelle, nous, dans le grand public, les fleurs, il faut plutôt parler de plantes.
Ouais.
Et la fleur, c'est un organe de la plante et c'est son organe sexuel.
Mais tout ce qui est la partie la plus visible de la fleur, en fait, par exemple les pétales,
c'est stérile.
Servent à la reproduction, mais principalement pour être visible par les insectes pollinisateurs et puis pour servir de terrain d'atterrissage pour permettre justement cette pollinisation. Vraiment, la fleur, la belle fleur que l'on décrit visible, voire éventuellement odorante, c'est pas pour nos sens. Là, l'orgueil de l'homme en prend un coup. Il faut bien reconnaître ce qui est.
Jean-Paul dit, les fleurs ne sont-elles pas d'abord des objets sexuels d'un individu végétal ?
Tout à fait, hein, c'est exactement ça. Et quand c'est on offre un bouquet de fleurs à sa belle, on lui offre un bouquet de sexe.
Voilà, ou à son beau d'ailleurs aussi, pourquoi pas. Allez, on vous retrouve dans un instant. Beaucoup de messages, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Moonlight, Annie El Khatib à l'instant sur France Inter.
La tête au carré.
Et c'est là où je veux en venir.
Au carré.
Je crois savoir où ils vont.
Sur France Inter.
Ma chère grande sœur, depuis des semaines, je cherche le nom de cette plante de rivage. Mais aucune flore canadienne ni américaine n'en fait mention. Pas même les travaux des botanistes des universités McGill et Harvard. Peux-tu faire une petite recherche à Québec dans l'herbier de l'abbé Brunet à l'Université Laval? Lui qui avait lancé l'idée d'un jardin botanique au siècle dernier avait peut-être identifié le spécimen que je t'ai fait sécher. Ah, j'allais oublier. Ce soir, j'ai enfin pu immortaliser sur un carton d'herbier cette clochette jaune, l'érythrone d'Amérique, celle que tu te plaisais à appeler ma première ignorance.
Extrait d'un documentaire de Nicole Gravel qui s'appelle Victorin le naturaliste, qui retrace l'histoire du frère Marie-Victorin, un religieux canadien, botaniste et fondateur, directeur de l'Institut botanique de Montréal en 1922. Puisque nous sommes cet après-midi avec Valérie Chansigaud, une histoire des fleurs entre nature et culture chez Delachaux et Nestlé, et Catherine Laine dans la peau d'une plante. 70 questions impertinentes sur la vie cachée des plantes, hein, ça c'est chez Belin. Voilà, c'est la rencontre entre vous deux, ce sont les regards croisés de vos disciplines sur ce thème des fleurs. Alors, les jardins botaniques, justement, les tout premiers, Valérie Chansigaud, ça remonte à quand exactement ?
Ah bah à la Renaissance.
Oui.
création en Italie, et c'est conçu en fait comme une variété, une variation sur le jardin de simple. Simplement, le jardin de simple est un lieu où on cultive afin d'utiliser, de reconnaître et d'utiliser des plantes pour leurs propriétés médicinales. Et ce qu'on a l'idée avec le jardin botanique, c'est de faire un lieu en fait d'inventaire, en fait, mais d'inventaire vivant, c'est-à-dire qu'on va pas simplement se contenter de faire des herbiers qui apparaissent à peu près à la même époque, mais on va cultiver les plantes afin de rassembler toutes les plantes du monde dans un même lieu.
Et on fait de la recherche, au fond, sur les plantes. C'est-à-dire qu'on veut les transformer aussi.
Alors ça, c'est plus l'apanage des jardins ornementaux, en fait, cette idée de transformer. C'est plus l'art du jardinier que l'art du botaniste, on va dire. Parce que le botaniste, justement, à travers les jardins botaniques, ont pour vocation de conserver, en fait, des espèces vivantes. Tandis que le jardinier est, selon le terme de la profession, d'améliorer. J'adore ce mot, parce que ça veut dire que là, quand même, cette nature imparfaite,
heureusement vient, l'homme est là, ouais, avec ce pouvoir de transformation, justement, de la fleur.
C'est vraiment pas admissible. Et c'est vraiment l'idée de transformer qui va aussi naître à la Renaissance, va fleurir, sans jeu de mots, dans les jardins ornementaux, aussi de collection, mais pour d'autres raisons, en fait.
Et donc, on va traverser aussi la planète pour voyager un peu plus tard, bien sûr, pour trouver les plus belles fleurs. On parlait des orchidées, mais ça...
Mais ce qui est tout à fait fascinant, c'est la passion qu'il y a pour les fleurs lointaines et l'inintérêt pour les fleurs locales.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que ça va
ça
aller
dure
très...
encore.
Et ça va aller très très loin, cette idée. Par exemple, les colons britanniques en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, vont cultiver non pas des plantes des colonies, mais des plantes venues d'Angleterre.
Oui.
Tandis qu'en Angleterre, qu'est-ce qu'on cultive ? Des plantes venant d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Australie.
Et Catherine, on ne sait plus regarder les plantes qu'il y a sous nos pieds.
C'est ce que j'allais dire. J'allais rebondir en disant que c'est encore vrai au XXIe siècle, où finalement, quand on parle de plantes, quand on s'intéresse aux plantes, il y a beaucoup de gens qui se disent il faut que j'aille en forêt tropicale, ce qui est très bien, ce qui est fort bien. Mais finalement, est-ce que les gens se sont penchés un jour sur un pissenlit, simplement pour constater que la structure d'un pissenlit, c'est absolument fascinant. Et moi, c'est aussi mon approche dans mon ouvrage, c'est de proposer des plantes communes, de celles qu'on rencontre partout et même en ville, pour ouvrir les yeux sur ce monde végétal local.
Oui, on parlait des orchidées justement, aussi, puisqu'on en trouve de très jolies chez nous, plus modestes, évidemment.
Alors, elles sont de taille plus modeste et surtout, elles vivent les pieds dans la terre, alors que les orchidées tropicales sont plutôt des plantes épiphytes qui vivent sur d'autres, sur des arbres, en fait.
Jean-Joël nous dit ceci, un public de plus en plus large n'achète plus de végétaux quand il n'y a pas de fleurs dessus et les plantations d'automne, de vivaces, d'arbustes et d'arbres sont abandonnées au profit des plantations de printemps annuelles et décoratives renouvelées chaque année.
Oui, et puis il y a quelque chose que j'ai noté, que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est ces cactus vendus un peu partout, sur lesquels on colle fleurs en papier, parce que effectivement un cactus...
C'est un peu tristoun comme ça tout ça.
C'est vrai, c'est
donc,
incroyable.
Enfin, on n'imagine pas d'acheter un poisson rouge sur lequel on aurait collé une deuxième tête simplement parce qu'une ne suffisait pas. C'est absolument hallucinant.
À partir de quand vous parlez justement de plantes artificielles, de fleurs artificielles au fond, même dans le cadre d'un jardin alors ?
L'essor vraiment de tout ça, c'est à la Renaissance, lorsque va se mettre en place un intérêt pour la culture des fleurs ornementales. Et c'est un intérêt qui est étroitement lié à la passion des collections. C'est-à-dire, on va avoir un cabinet de curiosité chez soi et on va poursuivre cette quête des choses les plus rares, les plus exotiques, dans son jardin, par la culture de plantes venues d'ailleurs. Mais simplement, on ne se contente pas de plantes venues d'ailleurs. On va jouer sur les variations infinies qu'on peut induire par des sélections, mais aussi, par exemple, par des maladies qu'on va sélectionner, comme les fameuses tulipes panachées. En fait, la panachure est due à une maladie qui attaque l'oignon. Et en fait, ça rend la culture beaucoup plus difficile, et ce qui augmente le prix. C'est une course.
Il y a des modes après extraordinaires. Et vous parlez des tulipes, des jacinthes aussi, je crois.
Des tulipes, des jacinthes, parce
qu'ils ont connu vraiment une espèce d'euphorie collective.
Et ce qui est absolument incroyable, c'est que, par exemple, que ce soit pour les tulipes ou les jacinthes, l'essentiel des variétés sélectionnées dans l'histoire sont aujourd'hui totalement perdues. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui produit une sorte de création très évanescente, très fugace, en fait.
Parce que souvent, ces plantes-là sont obtenues par croisement et que les descendants sont stériles. Donc,
Alors Catherine Laine, justement, ces plantes qui voyagent énormément et depuis longtemps, hein, puisqu'on fait des échanges de graines depuis des siècles maintenant, le problème ce sont les plantes qui deviennent envahissantes, c'est-à-dire qu'une plante dans son pays d'origine se comporte très bien, et puis une fois qu'on la fait voyager, qu'on la transporte ailleurs, elle a une capacité de nuisance absolument exceptionnelle.
Alors, pas toutes, hein, pas toutes évidemment. Mais effectivement, mais oui. Il se peut qu'une plante venant d'ailleurs, on appelle ça une plante invasive, allochtone. Cette plante, une fois qu'elle arrive dans un nouveau milieu, si les conditions sont bonnes, et surtout si elle n'est plus confrontée aux plantes compétitrices qui étaient à l'origine, dans son milieu d'origine, eh bien, elle peut se répandre,
elle
peut exploser.
Ouais. Les céréales colonisatrices. Céréales colonisatrices, hein. C'est le terme que vous employez. Comment on les appelle, Valérie Chansigaud, justement, au Québec, ces plantes envahissantes?
On m'a un jour repris en disant qu'il ne fallait pas parler de plantes invasives, mais de plantes
envahissantes.
Alors, voilà. Je suis tout à fait d'accord, parce que la plante invasive, c'est la plante qui vient d'ailleurs, et cette invasive peut devenir envahissante. Mais toutes les invasives ne sont pas envahissantes.
Les questions des auditeurs, elles sont nombreuses. Pierre nous dit ceci, la couleur des fleurs joue-t-elle un rôle dans l'attractivité des pollinisateurs?
Oui, Catherine bien Laine. Sûr, oui. Donc Valérie l'évoquait tout à l'heure, à propos de la corolle, c'est-à-dire l'ensemble des pétales des fleurs pollinisées par les insectes, les fleurs entomogames. Ces pétales sont souvent grands, avec des formes très colorées, et ces différents pigments de couleurs vont attirer le pollinisateur, non seulement par la couleur, mais également par des taches, par des lignes qu'on appelle des guides, et qui vont guider l'insecte jusqu'au cœur de la fleur.
Par de la chimie aussi, j'imagine.
Alors, ces pigments, c'est de la chimie, hein, puisque les pigments sont des molécules chimiques fabriquées par les pétales et stockées dans les cellules de ces pétales.
Ouais. Juste une petite parenthèse, parce qu'il y a une publication qui est arrivée cette semaine du Muséum National d'Histoire Naturelle et du CNRS sur les insectes pollinisateurs, parce que c'est vrai qu'on pense principalement aux abeilles, mais les mouches aussi prennent le relais dans certains cas, en altitude en particulier dans les Alpes, prennent le relais donc des abeilles. C'est une étude qui vient de paraître. Alors là, on parle de pollinisateurs secondaires, je ne sais pas très bien pourquoi, mais enfin bon, en tout cas, elles jouent ce rôle-là.
Voilà, les primaires sont moins alpinistes que les secondaires. Donc...
Mais elles y vont, vont un petit peu plus haut. Donc c'est vrai que c'était une façon de dire qu'il n'y avait pas que les abeilles évidemment qui jouent un rôle dans cette pollinisation.
Il y a même certaines plantes qui ne sont pollinisées que par les mouches et en pleine. Je pense aux arômes de nos jardins qui sont pollinisés par des petites mouches et attirés donc par des odeurs pestilentielles par contre.
Jacques nous dit ceci, est-ce que le dérèglement climatique est une menace indirecte pour les fleurs?
Direct même,
oui.
Pas seulement qu'indirect. Vous parliez des plantes alpines, ça c'est un très bon exemple, parce que si on imagine qu'avec le réchauffement climatique, les plantes poussant en altitude devront rechercher des habitats convenables, sauf qu'en montagne, il y a un moment où on ne peut plus monter parce que tout simplement la montagne s'arrête. Donc la capacité de migration de ces plantes en altitude, de toute façon, sera tout à fait limitée.
Catherine Laine.
Oui, je suis complètement d'accord. Et elles pourront pas trouver refuge jusqu'au bout. Alors on peut quand même espérer qu'effectivement, avec ce réchauffement climatique, les espèces les plus basses, ayant besoin d'un certain nombre de mois de froid, vont remonter. Mais donc, ça induit aussi des conséquences de compétition, de remplacement de flore aux différents étages et tout un bouleversement de la disposition des plantes.
Sans parler des insectes qui, eux, peuvent réagir différemment.
Bien sûr,
on peut très bien avoir une plante dépendante d'un insecte. Oui. L'un réagira à la température, l'autre à la longueur du jour. La longueur du jour ne va pas changer. Donc il peut y avoir en fait un bouleversement de la synchronicité entre un pollinisateur, par exemple, et une plante.
Absolument.
Larry demande, la rose et les excès qui accompagnent sa culture n'est-elle pas un stéréotype du mauvais usage des fleurs? Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Chansigaud?
Oui, ce qui est fascinant avec la rose, c'est quand même l'ancienneté. Alors, c'est vraiment une plante qui, depuis l'Antiquité, se trouve dans les jardins pour ses valeurs. Alors, ornementale, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait pourquoi on va cultiver des roses. On va cultiver des roses principalement pour faire des bouquets, des couronnes, utiliser les pétales. Il y a une utilisation absolument forte des pétales dans les cérémonies, etc., chose qu'on a quand même largement oubliée, et également pour la fabrication des parfums. Et par exemple, là où on est sûr de voir des fleurs cultivées à Pompéi, par exemple, c'est toujours dans des lieux où il y a au bout une distillerie pour fabriquer des parfums.
Jacques nous dit ceci, les acanthes devaient être bien vues par les Grecs pour en avoir fait un motif de décoration. Pour moi, c'est plutôt une mauvaise herbe envahissante. À Antibes, j'ai du mal à empêcher leur prolifération.
Ah oui, mais elle est si belle.
Ouais. Patrice nous dit ceci, chez les phanérogames, dans quelle proportion les fleurs hermaphrodites sont-elles auto-fécondables? Peut-il y avoir une fécondation croisée entre fleurs d'un même pied monoïque? Alors, il faut nous faire juste une petite traduction des termes. Voilà. Donc, chez les phanérogames, déjà.
Alors, les phanérogames, c'est un terme ancien pour désigner les plantes à fleurs, les plantes à fécondation visible. Qu'est-ce que vous me demandez ensuite?
Peut-il y avoir une fécondation croisée entre fleurs d'un même pied monoïque?
Alors, monoïque, voilà. Une espèce monoïque, c'est une espèce qui porte sur un même pied le sexe mâle et le sexe femelle, soit dans des fleurs séparées, mais sur le même pied, soit dans la même fleur, ce qui est la majorité des plantes à fleurs. Je ne sais plus le chiffre, mais c'est près de 90% des angiospermes, des plantes à fleurs, qui possèdent des fleurs hermaphrodites, ayant à la fois des étamines et un pistil. Mais la quasi-totalité est hermaphrodite et pourtant très peu utilisent la fécondation, l'auto-fécondation. Parce qu'il y a des barrières génétiques qui empêchent le pollen d'une fleur de féconder cette même fleur, de féconder le pistil de cette même fleur. Donc en résumé, l'évolution a sélectionné un mode de fécondation croisée, mais des organes sexuels pour les plantes qui portent à la fois le sexe mâle et le sexe femelle.
Ah, il y a une question qui va vous plaire, c'est Florian justement qui nous dit ceci. À partir d'un certain niveau d'évolution, est-ce que nous pouvons discuter avec les fleurs? Ces êtres comme les autres plantes, sont-elles douées d'une forme d'intelligence sensible, évoluée et particulière à chacune d'entre elles? Alors sur la sensibilité des fleurs, ça vous êtes d'accord?
Absolument. Hein, alors, sur la sensibilité, je suis complètement d'accord. Ouais. C'est-à-dire que les plantes, toutes les plantes, tous les êtres vivants, de la bactérie jusqu'à la plante, en passant par l'homme et tout ce que vous voulez. Sont des êtres sensibles, c'est-à-dire sont capables de percevoir leur environnement, des stimulus de l'environnement et d'y répondre. Donc les plantes ne font pas exception à la règle.
Ouais.
Ensuite, après, sur l'intelligence, on quitte un peu mon domaine scientifique. Moi, je m'arrête à la perception, à la réponse, à l'intégration des signaux. Une plante, c'est capable d'intégrer différents types de signaux et d'adapter sa réponse. C'est même capable de mémoriser des signaux et d'y répondre plus tard.
Valérie Chansigaud, allez, oui. votre proposition à vous sur l'intelligence des fleurs.
Non, alors sur ça, la sensibilité, évidemment, c'est certain. Ce que vous faites dans votre livre, d'ailleurs, que j'ai trouvé très, très pertinent, c'est d'avertir le lecteur qu'il ne fallait pas confondre sensibilité, par exemple, et sensation de souffrance. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on réagit à un stimuli que la souffrance telle qu'on la conçoit pour un animal est sensible. Mm-hmm. Et ça, c'est un argument qu'on utilise abondamment dès qu'il est question de droit de l'animal, en disant oui, mais on s'en fout. Enfin, la carotte aussi peut souffrir. Ça joue en fait sur les mots, ça joue, mais fondamentalement, physiologiquement, il est tout à fait abusif de parler de souffrance, en fait, comme on peut parler de souffrance.
Mais la sensibilité, elle est intéressante pour porter aussi un regard peut-être plus juste sur cette plante, sur ses fleurs.
Oui, alors peut-être la sensibilité, je dirais peut-être aussi autre chose qui serait le passage du temps. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que cette passion des fleurs a consisté à faire des fleurs, effectivement, éternelles. C'est-à-dire, il fallait que les floraisons durent le plus longtemps possible. Et dès qu'une plante arrête de fleurir, parfois on l'arrache et on la remplace par autre chose. Mmh. Alors que ce qui est fascinant dans la floraison, c'est l'aspect totalement fugace de cette floraison. C'est un moment, un instant dans la vie d'une plante, mais ce n'est pas la vie d'une plante, c'est juste... comme ça, un petit instant de beauté, et puis pouf, on passe à autre chose. Et
il faut peut-être revenir justement à la fonction première de la fleur pour une plante. Comme vous dites, c'est fugace, et le pourquoi de la fleur, mais c'est le fruit. Donc, et le fruit qui contient les graines. Donc la fleur est l'étape obligée de la reproduction sexuée pour aller fabriquer des graines à l'intérieur desquelles se trouve la génération future.
Valérie Chansigaud, pour terminer, l'amour des fleurs a-t-il un coût écologique? C'est une des questions que vous proposez dans ce livre. Votre réponse, quelle est-elle?
Un coût énorme, pas forcément bien visible. On a parlé des plantes envahissantes. C'est vrai qu'une bonne partie des espèces végétales envahissantes ont été introduites par le commerce horticole, et continue de l'être, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de mal à faire comprendre cette question-là. Par exemple, les industries horticoles ont résisté ardemment à la limitation du commerce, par exemple, du Buddleia, qui était demandé suite au Grenelle de l'environnement. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire qu'on ne veut pas envisager ce genre de choses.
Catherine Laine.
Je crois que l'émission est bientôt finie.
Et je vous le confirme.
J'avais un message à faire passer. Je pense que Valérie va me soutenir là-dedans. Je pense que le grand public n'est pas assez sensibilisé aux merveilles de ce monde végétal. Et je pense que c'est lié aussi à l'enseignement et à notre façon de faire en France. La botanique, c'est vieux, c'est désuet. Et moi, je milite pour dire que la botanique, c'est moderne, c'est intéressant, et on peut l'enseigner dès l'école. Et le retour à la leçon de choses, c'est peut-être la solution.
Et des ouvrages pour nous aider justement à aller dans ce sens. Par exemple, Dans la peau d'une plante, c'est chez Belin, Catherine Laine, 70 questions impertinentes sur la vie cachée des plantes. Et puis Valérie Chansigo, un très beau travail avec une magnifique iconographie, une histoire des fleurs entre nature et culture de La Chaux et Niestlé. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange.
Merci bien.
We suffer every day. What is it for? These crowns of illusion are fooling us all. And now I am weary and I feel like I do. It's only you who can tell me apart. And it's only you who can turn my wooden heart. The size of our fight, it's just a dream. We've crushed everything I can see in this morning selfishly. How we fail, and I feel like I do. It's all to take all we can. The shade of autumn will stay.
Only You, Portiched à l'instant sur France Inter et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de notre émission. Une nouvelle semaine avec les questions scientifiques de la tête au carré spécialement concoctées pour vous. C'est l'heure de notre quiz avec ma camarade Florence Porcel.
Bonjour camarade Mathieu.
Voilà, qui a passé un très bon week-end, oui, qui est en pleine forme.
Absolument.
Pour accueillir et saluer deux nouveaux candidats, Florence.
Mais oui, nous accueillons Françoise et Jérôme. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Françoise, vous habitez à Biéville-Beuville. Est-ce que je prononce bien le nom de votre commune ?
Oui, c'est parfait.
Bon, c'est dans le Calvados.
Oui. Oui, près de Caen.
Et vous êtes pharmacienne?
Oui.
Vous avez le temps d'écouter la radio dans votre officine?
Oui, tout de suite, je ne fais que des remplacements, alors j'ai un petit peu de temps.
Très bien, tout s'explique. Face à vous se trouve Jérôme, qui habite à Saint-Germain-en-Laye, non loin de Paris, dans les Yvelines. Jérôme, je vois que vous êtes prof de maths.
Exact.
Vous êtes professeur pour des collégiens ou des lycéens?
Les deux. Occasionnellement dans le supérieur également.
Ben écoutez, je ne sais pas si on a des questions de mathématiques dans notre questionnaire.
Je ne crois pas, en général j'évite.
En tout cas voilà, un scientifique pur jus qui est face à vous Françoise. On va voir donc qui de vous deux va remporter le plus grand nombre de points pour remporter aujourd'hui un nouveau cadeau puisque nous avons un partenaire qui nous rejoint, Florence.
Mais oui, c'est Arte Édition et nous offrirons au gagnant ou à la gagnante du jour le DVD Sacré Croissance, un documentaire de Marie-Monique Robin. Bonne chance à tous les deux.
Allez, bonne chance Françoise et Jérôme. On démarre avec la question d'actualité. Pour vous parler d'une liste verte qui a distingué 23 sites remarquables. Et cette liste a été rendue publique le 15 novembre par l'Union internationale de la conservation de la nature. Dans cette liste, la France se classe deuxième avec 5 sites retenus. Mais voici ma question. Quel pays se classe premier avec 6 sites au sein du classement des sites remarquables? Le chrono est lancé et vous avez 30 secondes pour me faire vos propositions. Alors, Françoise.
Les États-Unis ?
Non. Un grand pays quand même.
Un grand pays aussi, oui.
Françoise, le Canada ?
Non.
Le Brésil ?
Non plus.
L'Espagne ?
Non. Vous avez dit quoi, Jérôme, pardon ?
La Chine.
La Chine, bonne réponse. Alors, les sites remarquables, effectivement, classés par l'Union internationale de la conservation de la nature. Et c'est vrai que spontanément, mais comme quoi on a des préjugés, on n'aurait pas cité forcément la Chine.
Pas forcément.
Florence,
et cette liste verte a pour but en fait, de reconnaître et de promouvoir les succès de la gestion d'espaces naturels parmi les plus remarquables de la planète. Et sur 50 sites candidats, 23 ont été retenus, dont le parc national des Pyrénées, le parc naturel marin d'Iroise et le parc national de la Guadeloupe en France. Alors, il s'agit autant de valoriser ces sites que leur gestion qui doit contribuer à la résolution des problèmes de développement durable.
Voilà, et donc la Chine arrive première
avec 6 sites,
de ce classement, ce qui vaut 10 points à Jérôme.
Exactement.
Voilà, surtout n'hésitez pas à bien nous donner vos réponses bien distinctement, parce que sur les questions de rapidité, c'est important de bien vous entendre. Françoise et Jérôme, 7 questions pour vous, 1 minute 30 pour y répondre. On lance le chrono et c'est parti pour cette première question. Quel objet informatique obsolète est toujours utilisé comme pictogramme pour l'enregistrement d'un fichier ?
Minitel.
Une disquette.
Une disquette, Jérôme. Quelle structure architecturale située en Asie est la plus importante jamais construite ? On y retourne. Allez, on vous aide un tout petit peu. Structure architecturale dont on a même dit qu'on pouvait l'avoir de la Lune. Mais enfin,
La Grande Muraille de Chine.
La Grande Muraille, Jérôme. Quel puissant gaz à effet de serre est émis par les vaches, s'il vous plaît ?
Le méthane.
Le méthane, Jérôme. Comment appelle-t-on les masses d'eau contenues dans les fissures du sous-sol ?
Nappe phréatique.
C'est Françoise qui a donné la bonne réponse. Quel est le nom de l'unité qui mesure l'intensité du courant électrique ?
L'ampère.
Tout simplement, monsieur le mathématicien, donnez la bonne réponse. Dans quel pays d'Europe célèbre-t-on aujourd'hui la journée de la culture scientifique ? Alors,
l'Allemagne ?
Non. Ah, on va faire
L'Espagne.
Le tour de... Non.
L'Italie ?
Non, on n'est pas loin.
En Bretagne ?
On n'est pas loin, mais ça n'est pas
la...
ça.
La Suisse ?
Non plus. Pays d'Europe ? Pays qui fait partie de la communauté européenne.
Allemagne ?
Non.
Belgique ?
Non. Allez, on passe à la dernière question. Comment s'appelle le plus grand radiotélescope simple du monde ?
Hubble.
Qui a revu, à la baisse... Oui, bravo, bonne réponse. Allez, dans quel pays d'Europe on célèbre aujourd'hui la journée de la culture scientifique ? C'est le pays que vous ne m'avez pas cité dans toute cette liste. Et qui...
L'Espagne.
Non, vous l'avez cité,
Portugal.
L'Espagne.
C'était le Portugal,
Françoise.
Effectivement, en hommage à Antonio Gedeão, chimiste, historien des sciences et poète, né le 24 novembre.
Je suis épuisé, on a fait tout le tour de l'Europe, mais malheureusement, on n'est pas tombé sur le Portugal. Alors, Florence, vous avez fait le calcul des points pendant que Françoise et Jérôme nous donnaient leurs réponses.
Mais oui, il y a 5 points pour Françoise et 25 pour Jérôme cette manche. Oui,
donc
c'est
une importante avance
pour Jérôme, effectivement. Jérôme.
Et ça, c'est le total des points pour tout notre jeu ?
Non, pour tout le jeu, Jérôme a 35 points.
Aïe, on en rajoute 10 de plus. Bon, allez, le mot mystère. Françoise, vous avez ce mot sous les yeux. 45 secondes pour le faire deviner à Jérôme. Et si vous êtes prête, on lance le chrono, vous êtes d'accord ?
Oui, tout à fait.
Allez, c'est parti.
Donc, c'est un système pour diviser les sociétés au niveau de l'Inde, en Inde.
Les castes.
Ben oui, tout simplement. Voilà, groupe qui se distingue par ses privilèges et son esprit d'exclusivité à l'égard de toute personne qui n'appartient pas au groupe, et effectivement les castes indiennes. Bonne réponse de Jérôme. Allez, c'est la dernière question. Dernière chance pour vous, Françoise, de marquer quelques points. Jérôme, la définition, c'est parti, 45 secondes, on lance le chrono.
Alors, il s'agit d'une partie d'une ampoule à incandescence. Ces vieilles ampoules qu'on utilise de moins en moins.
Bravo. Tout simplement. Le filament aura suffi à Françoise pour marquer
10 points
quelques
de plus.
Points. Mais je crois que ça n'est pas suffisant.
Je crois que ça va être juste.
Non, oui. Effectivement, c'est Jérôme qui remporte le jeu. Toutes nos félicitations avec 45 points.
Bravo.
Un joli score.
Oui, très bon score. Là aussi, vous figurez, je pense, dans les meilleurs scores de notre quiz depuis la rentrée. Alors, ce sont des points qui lui permettent de remporter le cadeau du jour.
Mais
Florence.
Oui, le documentaire de Marie-Monique Robin qui s'appelle « Sacrée croissance » chez Arte Édition. C'est une enquête qui explore les voies alternatives possibles à la croissance actuelle et illimitée. Voilà.
Intéressant.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir joué. On vous souhaite une
Merci.
Très très bonne journée à l'écoute de France Inter. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.